Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, coup de projecteur sur le CERF, le Fonds d'intervention d'urgence des Nations Unies, un fonds créé en 2006 qui chaque année en décembre organise sa traditionnelle conférence annuelle des donateurs. L'occasion pour le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU de récolter plusieurs centaines de millions de dollars, et ce pour intervenir au plus vite après une catastrophe naturelle, une crise ou un conflit. Jean-Marie Garelli, bonjour.
Bonjour.
Jean-Marie Garelli, vous êtes le chef de l'unité programme donc du Fonds central pour les interventions d'urgence donc de l'ONU. C'est rattaché au Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Pourquoi aujourd'hui ce fonds est-il pertinent? Comment intervient-il notamment au cours de cette année 2012? Qu'a-t-il fait pour essayer d'aider les populations en détresse?
C'est un fonds qui permet d'allouer des fonds aux agences des Nations Unies et à OIM, pour leur permettre de commencer des interventions d'urgence lors d'une crise soudaine. Alors ça peut être appliqué en cas de crise soudaine, mais c'est aussi applicable en cas de détérioration d'une crise. Les agences, de manière coordonnée, font une demande auprès du CERF sous le couvert du résident coordinateur ou de coordinateur humanitaire et nous envoie une requête. Ça, c'est un des aspects du fonds. L'autre aspect du fonds, c'est qu'il essaye aussi de mettre en place un système pour allouer des fonds à des urgences que l'on appelle sous-financées et la coordinatrice des secours humanitaires donne des fonds à ces opérations. Donc 2012, en fait, ça a été une grosse année pour le fonds puisque c'est la première fois que nous avons alloué autant d'argent puisque nous avons alloué 465 millions de dollars en 2012 à plusieurs types de crises, j'allais dire peut-être deux grosses crises majeures.
Alors justement, c'était ma question. À quel type de crise vous êtes confronté?
Le principe du fonds, c'est que nous répondons à toutes sortes de crises humanitaires, que ce soit des crises qui sont dues à des conflits, que ce soit des crises qui sont dues à une insécurité alimentaire, à des situations de famine, à des situations de sécheresse, mais aussi à des désastres naturels. Nous répondons en cas de tremblement de terre, en cas d'inondation. Peut-être pour, si on se concentre sur 2012, j'allais dire les deux pôles majeurs cette année, mais il y a eu beaucoup d'autres, mais les deux pôles majeurs ont été la crise en Syrie. Entre 2011 et 2012, le fonds a alloué 52 millions de dollars en réponse à la crise en Syrie. Alors à la fois à l'intérieur de la Syrie et également aux pays limitrophes pour aider les acteurs humanitaires à répondre à l'afflux de réfugiés.
Alors, on parle d'urgence, on essaie de comprendre. Avant qu'il y ait ce fonds qui, on le rappelle, a été créé en 2006, il y avait déjà une aide humanitaire. Quel était l'objectif pour créer ce fonds? De quelles réflexions sont partis les créateurs de ce fonds?
Bien sûr, l'aide humanitaire existait, le financement humanitaire existait, ça passait par des canaux habituels, mais aussi rapide que ça pouvait l'être, c'était toujours un petit peu trop court par rapport aux besoins. Et ça, je pense que c'est un point important parce que ce qui est important de garder présent à l'esprit, c'est que le fonds ne couvrira pas ou ne couvre pas l'ensemble des besoins. Mais juste pour pouvoir, dans sa partie réponse rapide, pour pouvoir donner de l'argent pour que les agences puissent immédiatement commencer. Donc ce qui nous oblige, lorsque nous recevons des soumissions, nous faisons une recommandation à la coordinatrice des secours d'urgence, puisque c'est elle qui décide en tant que gestionnaire du fonds, et nous essayons de faire des recommandations le plus rapidement possible.
Pour parler en termes crus, c'est un peu comme pour les pompiers avec un incendie, c'est essayer de limiter la casse. On essaie d'intervenir au plus vite pour essayer ensuite de réduire les conséquences à long terme de la catastrophe ou du conflit.
Oui, exactement, et aussi pour permettre une intervention immédiate. Et ensuite, ça ne remplace pas les donateurs traditionnels qui, eux, ensuite, amènent des fonds, beaucoup plus de fonds. Lorsque nous avons une crise dont les besoins totaux sont estimés à 100 millions, nous, on essaye de travailler sur une base de 10-15 millions pour permettre immédiatement de commencer. Donc, c'est vraiment pour cibler les interventions d'urgence, les interventions qui vont sauver des vies humaines dans les plus brefs délais.
Alors, justement, quand on parle de plus brefs délais, de réactivité, on parle de quoi? On parle d'une semaine, de 15 jours?
Lorsque nous, on reçoit une soumission, on essaye de répondre dans les 48 heures. Donc, dans les 48 heures, nous répondons. Après, donc, tout dépend évidemment des questions que nous allons avoir, des qualités des soumissions. Mais si une soumission est finalisée, ensuite, dans les 3 jours, les fonds sont déboursés au siège des différentes agences des Nations Unies.
Alors, on parlait de la Syrie tout à l'heure. Donc, concrètement sur la Syrie, qu'est-ce que vous avez fait par rapport donc à la Syrie elle-même et bien sûr aux réfugiés et aux personnes qui ont dû se réfugier à l'extérieur de la Syrie?
Donc, en Syrie même, nous avons alloué 40 millions de dollars. Les secteurs qui ont le plus bénéficié, ça a été le secteur de la nourriture, alimentation, également le secteur de la santé, secteur des abris et des biens non alimentaires, également des secteurs concernant la protection, l'eau et l'assainissement, évidemment. En ce qui concerne les pays limitrophes, donc nous parlons ici de la Turquie, 2 millions de dollars, de l'Irak, 3 millions de dollars, de la Jordanie, 4 millions de dollars, et du Liban, 3 millions de dollars. Donc là, c'était évidemment pour aider les agences humanitaires et les gouvernements aussi à prendre en charge les réfugiés qui sortaient de la Syrie. Donc les agences qui ont le plus bénéficié, si on part donc de cet ensemble de 52 millions, ont été le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'UNICEF, bien sûr, le PAM, l'OMS, le FNUAP, UNRWA, la FAO, IOM et le PNUD.
Donc pas mal d'agences des Nations Unies. Alors justement, vous parliez par exemple de l'eau pour la Syrie. Donc est-ce que l'idée et l'assainissement, c'est d'éviter les épidémies? C'est lorsqu'il y a une concentration de population dans un pays limitrophe, essayer d'endiguer, d'accompagner ces mouvements?
Voilà, exactement. Parce que souvent, lorsque vous avez une concentration de gens qui se déplacent et qui se retrouvent dans des situations extrêmement précaires, il est essentiel de pouvoir mettre en place des structures d'urgence. Alors ça peut être des latrines dans certains pays et surtout qu'ils aient accès à l'eau potable. Donc là, c'est souvent l'UNICEF, du fait de son expertise, qui demande des fonds pour mettre en place les 2-3 premiers jours ou 4-5 premiers jours pour leur permettre d'avoir un accès à l'eau.
On parlait de la crise syrienne qui a bien sûr monopolisé l'attention cette année, mais il y en a bien d'autres. Je pense notamment toujours par rapport à ces urgences au Myanmar, qui est peut-être une crise un peu moins connue. Qu'est-ce que vous avez fait comme intervention là-bas, sachant qu'il y a notamment donc, dans l'état de Rakhine des violences intercommunautaires?
Nous avons fait plusieurs interventions au Myanmar cette année. Le Myanmar a reçu un nombre assez important de fonds et nous avons fait des interventions dans deux endroits différents. Alors évidemment, le Rakhine dont vous avez parlé, qui est l'intervention la plus récente pour aider les agences des Nations Unies et les acteurs humanitaires à répondre aux conséquences de ce conflit intercommunautaire. Mais au mois d'avril, nous avions également donné des fonds au Myanmar dans l'état de Kachin, puisqu'il y avait également, peut-être ça n'avait pas peut-être la même attention que le Rakhine, peut-être pas la même ampleur, mais malgré tout, il y a eu également des violences d'ordre intercommunautaire. Et là, nous avons permis aux agences des Nations Unies de pouvoir mettre en place une réponse d'urgence.
Alors, il y a des continents qui sont plus concernés que d'autres. On parlait du Myanmar, donc pour l'Asie, mais il y a d'autres pays qui sont concernés. On pense notamment au Pakistan, qui est souvent frappé par des catastrophes, également à la Corée du Nord. Sur le Pakistan, quelle est votre intervention?
Alors, sur le Pakistan, nous avons fait une double intervention. Le Pakistan a reçu beaucoup, beaucoup d'argent cette année. Je pense qu'on est aux alentours de 35 millions. Alors, à la fois une intervention pour aider les agences et les acteurs humanitaires à répondre aux situations d'inondations dramatiques qui ont eu lieu récemment, mais également pour répondre à la situation liée au déplacement de population dans le nord-ouest du pays. Donc là aussi, c'était quelque chose qui a permis de faciliter la réponse d'urgence.
Sur la Corée du Nord?
Sur la Corée du Nord, ça a été une double approche. D'abord, donc, la Corée du Nord a bénéficié de ce qu'on appelle une allocation urgence sous-financée. Donc ça, c'était évidemment pour permettre aux agences de répondre à la situation en termes de crise alimentaire, donc qui est chronique, mais qui n'avait pas reçu suffisamment de fonds pour permettre une réponse humanitaire adéquate. Donc là, nous avons alloué de l'argent dans le cadre de l'aspect urgence sous-financée. Et un autre aspect aussi, ça concerne également la réponse aux inondations. Donc là, nous avons également donné une petite allocation pour que les agences puissent répondre. Alors là, cette allocation, par exemple, que c'était se concentrer, on a parlé tout à l'heure des interventions en termes d'eau et d'assainissement, puisqu'évidemment, c'est quelque chose qui est important, et également en termes sanitaires.
On parle de ces pays, on parle du Myanmar, on parle du Pakistan ou on parle encore de la Corée du Nord, des pays asiatiques, mais aussi des pays où il y a quand même des régimes assez forts. Est-ce que ça veut dire que chaque fois que vous intervenez et que vous envoyez vos fonds, il y a forcément une coopération et un feu vert du gouvernement?
Pour qu'on puisse envoyer nos fonds, nous n'avons pas besoin d'un feu vert formel du gouvernement, mais il est clair que les agences des Nations Unies, lorsqu'elles mettent en place leur soumission coordonnée à travers le résident coordinateur et le coordinateur humanitaire, il est clair que pour pouvoir mettre en œuvre les activités, il est clair que le gouvernement doit être en accord avec cette approche. Alors ça peut être suite à une demande du gouvernement, mais ça peut être aussi des plus petites crises où il n'y a pas forcément un appel international qui est fait, mais où le gouvernement, bien sûr, accepte que les fonds soient mis en place.
Alors on parlait de l'Asie, mais bien sûr l'Afrique est hélas aussi concernée. Je pense au Soudan du Sud et bien sûr au Sahel, avec la crise que l'on connaît. Sur le Sahel notamment, donc avec plusieurs pays impliqués, je pense au Mali, au Niger et à d'autres. Qu'est-ce que vous avez pu apporter, sachant que c'est quand même un conflit et une aide d'urgence nouvelle pour vous et qui est quand même assez conséquente?
Oui, alors le Sahel, c'est ce qui a retenu le plus notre attention en 2012, puisqu'en termes d'allocation, on parle de 111 millions de dollars, donc depuis novembre jusqu'à maintenant, pour couvrir l'ensemble des pays du Sahel. Sahel, c'est ce qui est important de noter, c'est que c'était une urgence humanitaire complexe, parce qu'il y avait plusieurs aspects à cette urgence humanitaire. Donc il y avait l'aspect, évidemment, insécurité alimentaire, liée à la sécheresse, à l'augmentation des prix, qui a commencé dès le mois de novembre. Donc nous sommes intervenus suite à une demande des pays, des équipes de pays, nous sommes intervenus très tôt dans le processus pour faire en sorte que justement les conséquences d'une crise soient limitées, mais également tout ce qui concerne les déplacements, donc déplacements de population liés aux conflits dans le Nord-Mali. À la fois, nous sommes intervenus dans cet aspect-là dans le Nord-Mali, mais aussi aux pays limitrophes en termes de réfugiés. Dans cette zone, il y a eu également des inondations qui ont été très importantes cette année, également en termes de santé publique, puisqu'il y a eu des épidémies, notamment de choléra, qui se sont développées. Bon, c'est toujours souvent lié aux inondations. Donc ça a été ces quatre interventions qui ont fait en sorte qu'on est arrivé à un montant qui est assez conséquent. Puis, alors, évidemment, c'est la sécurité alimentaire et la sécheresse qui a bénéficié le plus, puisqu'on parle de presque 64 millions de dollars. Tout ce qui est lié au déplacement, à la fois interne et situation de réfugiés, à peu près 23 millions de dollars. Bon, ensuite, en ce qui est réponse aux inondations, 8 et le choléra 5.
Donc là, c'est pour le Sahel, donc dans toute son étendue, en gros un quart des interventions pour vous cette année. Il y a également le Soudan du Sud qui est ce nouvel État qui a du mal donc à faire face à tous les défis dans un contexte quand même de conflit. Donc là également, comment vous pouvez intervenir? C'est un peu la même règle pour le Mali aussi, vous parlez du nord du Mali. Comment dans certaines zones de conflit ou certaines crises, vous pouvez malgré tout apporter votre aide?
Lorsqu'on parle du fond, on parle de réponses rapides. Et notre durée de mise en œuvre pour les réponses rapides est de 6 mois. Donc on doit s'assurer que les agences nous apportent les preuves qu'elles vont pouvoir mettre en œuvre les activités dans les 6 mois. Après, c'est un fonds qui est destiné à aider les équipes de pays. Donc c'est elles qui ont la responsabilité de s'assurer qu'elles puissent mettre en œuvre les activités.
Il y aurait beaucoup de questions à poser, je vais vous en poser juste une dernière. C'est, on parle de l'humain, on parle de l'humanitaire, on parle de ce fonds central pour les interventions d'urgence. Si on fait le bilan un peu, notamment en 2012, mais peut-être même jusqu'à 2006, une intervention vraiment qui a bien marché, dans laquelle le timing a bien fonctionné, qui a bien répondu aux attentes et aux besoins, surtout des populations sur place, qu'est-ce qu'on peut citer, ou une ou plusieurs?
Je vais peut-être insister sur la réponse pour le Sahel, pour une raison précise, c'est parce que on a essayé de répondre, suite à une demande de l'équipe de pays, de répondre le plus tôt possible dans le processus de crise, pour éviter justement d'attendre que la situation se dégrade de manière dramatique, un petit peu ce qui s'est passé pour la Corne de l'Afrique en 2011. Donc pour la situation du Sahel, on est intervenu beaucoup plus tôt. Nous sommes intervenus pour aider les agences à répondre à la crise alimentaire au Niger dès le mois de novembre, alors que la période de soudure est en général prévue dans les PIA vers le mois d'avril. Donc nous avons vraiment fait une intervention très précise plus tôt. Donc ça a permis aux agences d'intervenir plus tôt. Peut-être en termes de réponse à vraiment une situation de crise, le Sud-Soudan, lorsque au milieu de l'année, il y a eu un afflux extrêmement important, à la fois de réfugiés depuis le Soudan, mais aussi de populations du Sud-Soudan qui revenaient chez eux. Nous avons fait une allocation très importante, puisqu'on a parlé juste en une seule fois de 20 millions de dollars. Et ça a vraiment permis aux agences sur le terrain de pouvoir répondre à cette crise. Mais j'espère qu'il y en a beaucoup d'autres, mais ça, ce sont celles qui me viennent à l'esprit.
On en reparlera peut-être une prochaine fois.
Voilà.
En tout cas, merci Jean-Marie Garelli, merci. Je rappelle que vous êtes le chef de l'unité programme donc du Fonds central pour les interventions d'urgence de l'OCHA et donc des Nations Unies. Merci.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Voilà, et c'est ainsi que se referme ce magazine Escale consacré cette semaine aux activités du Fonds central d'intervention d'urgence de l'ONU, un programme préparé et présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Florence Westgaard, d'Élodie Sabot et de Rosie Star. Un programme à retrouver sur l'internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec Escale la semaine prochaine.